je puis commencer, je pense. Oui. Bon après-midi, pratiquement, c'est pratiquement l'heure, oui. Bon après-midi à tous. Je vais discuter ces deux choses, le droit et la statistique, qui semblent tout à fait opposées, mais je vais suggérer qu'elles sont liées dans ce sens. Je vais examiner le potentiel et les limites des approches quantitatives de la recherche en droit, et spécifiquement dans le droit du travail. Et le cours explore les méthodes utilisées pour construire et valider les indicateurs de la réglementation du travail. Et ces techniques, nous les avons nommées la leximétrie, qui c'est un mot qu'un collègue a inventé, un petit peu comme l'économétrie, mais la leximétrie, c'est très simple, c'est l'approche quantitative à l'étude des lois. Donc, les techniques aussi utilisées par les économistes eux-mêmes, les techniques économétriques, statistiques, dans un sens plus normal, sont aussi intéressantes pour les juristes, je pense. Est-ce qu'il est possible d'utiliser ces techniques pour poser et peut-être pour résoudre des questions? Par exemple, quels sont les effets du droit du travail dans la sphère économique sur l'emploi, sur la productivité et sur l'inégalité? C'est ma question. Et je vais suggérer que, bien qu'il y a un risque d'abus et de détournement d'indicateurs juridiques, ces indicateurs peuvent fournir de nouveaux éléments de preuve sur la nature et les effets des règles du droit du travail. Et ils peuvent contribuer aussi à la théorie du droit du travail et ainsi qu'à la résolution de certaines questions pratiques de politique réglementaire. Bon. Dans ce sens, le thème n'est pas nouvel parce qu'il y a un siècle déjà, le juge Holmes a dit aux États-Unis que pour étudier le droit, pour l'étude, il dit rationnelle du droit, l'homme ou la femme de la lettre noire, c'est une expression un peu anglo-saxonne, n'est-ce pas, mais il l'utilise pour décrire les règles comme règles, black letter law. L'homme de la lettre noire lit le texte des lois, cet homme ou cette femme est la personne du présent dans le 19e siècle. Ouais. Mais la personne de l'avenir est la personne des statistiques et le maître de l'économie. Il a écrit ça en 1896. Peut-être ce n'était pas l'avenir, parce que maintenant, il y a une exclusion quasi pratiquement vaste entre le droit et la statistique. Mais c'est un thème beaucoup discuté. Et maintenant, quelque chose qui, dans un sens, est même plus vieux. Dans le 18e siècle, Gottfried Wilhelm Leibniz, qui a inventé, peut-être avec Newton, le calcul, il a été inspiré par la notion que la mathématique peut révéler la structure du monde entier. Et plus spécifiquement, Leibniz a suggéré qu'on pourrait utiliser le codage binaire pour ce projet. Avant les ordinateurs, avant les algorithmes, des choses comme ça, Leibniz a dit que les nombres étant réduits au plus simple principe, comme 0 et 1, ils parvoient partout un ordre merveilleux. C'était écrit dans l'explication de l'arithmétique binaire au commencement du 18e siècle. J'ai découvert récemment que Leibniz a étudié le droit, et peut-être c'est bien connu, mais il a écrit des textes sur le droit. Dans un sens, il a été juriste. et beaucoup d'autres choses aussi, mais bien sûr. C'est très intéressant, cette idée que l'on peut mesurer le monde, mais réduire le monde matériel et le monde social, au nombre binaire, exprimé binaire dans ce sens. C'est absolument fascinant et très, très intéressant. Mais il y a une autre perspective, plus sceptique, je pense. Pas tout ce qui compte peut être compté, et pas tout ce qui peut être compté compte, apparemment dit par Einstein, ou peut-être il ne le dit pas. Nous ne savons pas. On a attribué cette remarque à Einstein. Apparemment, il ne les a jamais parlé, mais je pense que c'est une observation absolument pertinente pour notre discussion, dans un double sens. C'est bien possible, absolument, qu'il existe des variables qui nous intéressent, mais qui ne sont pas mesurables. Et inversement, il y a des choses que l'on peut mesurer qui sont sans intérêt ou ne devraient pas être d'intérêt à l'étude empirique du droit. Et peut-être dans ce sens, c'est la précision de la statistique qui peut nous distraire. Il était déjà connu dans les années 1920 qu'il y avait ces problèmes. Le statisticien de Cambridge, George Udny Yule, il a écrit « Nous obtenons parfois, entre les quantités variantes avec le temps, variable temporelle, des corrélations assez élevées à laquelle nous ne pouvons pas attacher toute signification physique, quoi qu'il en soit, même si, dans le cadre du test ordinaire, la corrélation serait certainement significative, dans le sens de ne pas s'expliquer par les fluctuations de l'échantillonnage. Et Yule a donné l'exemple d'une corrélation positive presque parfaite entre ces deux choses, la chute du nombre de mariages de l'Église de l'Angleterre entre 1866 et 1911 et la baisse du taux de mortalité standardisé pour la même période. Ces deux numéros ont été fixés pratiquement parfaitement. Il a écrit, il est possible, étant donné un peu d'ingéniosité et de bonne volonté, de rationaliser presque tout. Et je puis imaginer un passionné soutenant que la chute dans la proportion des mariages de l'Église de l'Angleterre est simplement due à la propagation de la pensée scientifique depuis 1866, et la chute de la mortalité est également clairement attribuée au progrès de la science, d'où les deux variables sont largement ou principalement influencées par un facteur commun et devraient donc être fortement corrélées. Mais il a dit, la plupart des gens, je pense d'accord avec moi, que la corrélation est tout simplement absurde, qu'il n'a pas de sens que ce soit, qu'il est absurde de supposer que les deux variables en question sont en quelque sorte toutefois indirectes, liées de façon causale les unes aux autres. Et je pense que le type de corrélation que Yule décrivait dans ce passage pourrait être décrit comme fortuit, c'est-à-dire une relation mathématique entre deux variables pourrait se produire purement par hasard. Cette possibilité est un rappel de la nécessité pour toutes les analyses statistiques d'être fondées en théorie, à moins qu'il y ait une bonne raison théorique de supposer que deux phénomènes pourraient être liés de façon causale, la présence d'une association mathématique entre eux ne peut pas être considérée comme la preuve qu'elles sont liées les unes aux autres au niveau de la réalité sociale ou autre réalité matérielle. Le papier de 1926 de Yule, cependant, a souligné un problème même plus fondamental avec les séries de temps, les séries chronologiques dans la statistique, à savoir la tendance pour deux phénomènes essentiellement sans rapport à s'associer les uns aux autres dans une analyse de régression simplement en raison de la façon dont ils étaient statistiquement exprimés. Et ce problème qui s'appelle corrélation sérielle ou autocorrélation dans la statistique fait référence à une tendance des variables à sembler convergentes lorsqu'elles sont exprimées en série de temps ou série chronologique continue. L'élément de convergence est une propriété purement mathématique qui naît indépendamment de toute relation entre les phénomènes sociaux que les données représentent. Et ce type de fausse corrélation pourrait être donc décrit comme représentatif car il est un produit de la façon dont un phénomène social donné est mathématiquement représenté. Néanmoins, ces observations ne démontrent pas l'impossibilité d'une analyse statistique du droit. Il faut prendre soin, je pense. Et il y a une autre considération qu'il faut être clair avec tous les modèles que l'on utilise et dans le droit et dans l'économie. C'est un grand problème pour nous maintenant dans la Grande-Bretagne, grâce bien sûr au Brexit et la discussion du rôle des experts dans la discussion du Brexit. Deux observations pertinentes sur cette question. Le premier par M. Michael Gove, qui est homme de politique. Il est ministre dans l'administration. Dans le débat sur le référendum, il y a 3 ans, Michael Gove a dit « Les gens de ce pays, la Grande-Bretagne, ont eu assez d'experts. Oui. The people of this country have had enough of experts. » C'est un avis qu'il a exprimé, mais ce n'est pas un avis de cette personne seulement. Dans un sens, peut-être, il a raison. Il est absolument nécessaire de clarifier l'expertise et exprimer les présuppositions dans les modèles, dans un sens. Ce n'était pas son but, peut-être, mais c'est une observation importante. Deux politologues, Andrea Saltelli et Silvio Funtovich, notre point de vue est que les pratiques de modélisation actuelles dans le développement et de l'utilisation constituent une menace importante pour la légitimité et l'utilité de la science dans les environnements politiques contestés. Oui. Un engagement en faveur de la transparence et de la partialité encouragera les modélisateurs eux-mêmes à se concentrer sur les paramètres, les intrants, les hypothèses et les relations bien contraintes et comprises. Et en outre, les aspects chargés de l'hypothèse du système devraient être clairement énoncés. Je suis absolument d'accord avec ça. Mais quelle question est-ce que nous pourrions considérer? Quand on considère la question des effets sociaux et économiques des lois, il faut commencer avec la théorie, oui. Mais quelle théorie? Parce qu'il peut y en avoir plus d'une seule approche, même chez la Banque mondiale. En 2008, la Banque mondiale, dans le rapport Doing Business, a dit « Les lois créées pour protéger les travailleurs les blessent souvent. » C'est très clair. C'est le droit du travail qui a blessé les travailleurs par ses effets sur le chômage et la compétitivité des entreprises, c'est absolument clair. Mais en 2015, il y a un autre avis de la Banque mondiale. La Banque mondiale a dit « La réglementation de l'emploi est incontestablement nécessaire. Bon. » Non seulement pour protéger les travailleurs contre un traitement arbitraire ou injuste, mais pour assurer un contrat efficace entre les employeurs et les travailleurs. Peut-être la Banque mondiale a changé son avis, c'est bien possible. Alors, au-dessous de ces déclarations sont des théories très distinctes. La première est la position de l'économie néoclassique, standard ou moderne. Le droit du travail, par fonction de protéger les travailleurs, interfère avec l'opération du marché, du travail. Les distorsions qui suivent ne réalisent qu'une augmentation du taux de chômage, donc pénalisant les travailleurs eux-mêmes. La hausse du prix de l'embauche et du licenciement ne se traduit pas nécessairement par une perte d'emploi net, car les deux effets sur l'embauche et sur le licenciement peuvent s'annuler. Mais les économies standards nous ont dit que le ralentissement des flux sur le marché du travail peut avoir un impact défavorable plus large parce qu'il décourage les jeunes entreprises d'innover par crainte des indemnités de licenciement trop lourdes qu'il leur faudrait acquitter en cas d'échec de leur projet et parce qu'ils tendent à amplifier les effets du cycle économique. Mais la deuxième théorie a dit autre chose. Cette deuxième théorie peut être nommée institutionnelle. On présume que les travailleurs recherchent davantage d'équité du travail, mais les employeurs hésitent à faire des efforts pour promouvoir l'équité. Pourquoi? Parce qu'ils craignent le phénomène de sélection défavorable ou adverse selection, contraire à leurs intérêts. Et l'idée ici est qu'un employeur qui donne aux salariés les termes plus avantageux, par exemple la protection contre le licenciement ou un salaire plus haut, stimule l'offre du travail par les salariés de moins de qualité. Alors, c'est un aspect de, comme j'ai dit, sélection défavorable parce qu'il y a des asymétries d'information entre l'employeur et le salarié. Donc, c'est un problème d'action collective. C'est possible que plusieurs employeurs voudraient augmenter les salaires et offrir la sécurité d'emploi avec le but d'augmenter l'effort et donc la productivité des travailleurs, mais personne ne veut être le premier à faire ça. Un autre problème est celui du risque moral. Un employeur peut décider de contracter sur la base des termes favorables aux travailleurs au début de leur rapport, mais à un moment ultérieur peut résilier sur sa promesse. Alors, dans ces circonstances, le contrat entre l'entreprise et le salarié manque la stabilité et la promesse de l'employeur n'est pas crédible. Peut-être une loi protectrice du travailleur, c'est une solution dans ce sens. Un autre nom pour ce phénomène est le problème de l'incohérence temporelle, time inconsistency problem. Dans la macroéconomie, ça explique, auparavant, l'importance de l'indépendance de la Banque centrale, qui donc peut contrôler le gouvernement et le restreindre quand il est tenté de résilier sur des promesses de maintenir les prix stables. C'est peut-être la même idée que nous pourrions utiliser pour justifier le droit du travail. C'est une idée assez acceptée dans un contexte, on peut l'accepter dans un autre. Mais pour quelque raison que ce soit, je pense que c'est assez clair que l'équité dans le travail est sous-fournie par le marché. Et dans cette situation-là, les lois qui restreignent le licenciement à travers toutes les entreprises dans un marché ou dans un territoire, ces lois peuvent élever l'offre de travail en faisant évoluer la relation de travail vers un équilibre plus efficace entre les parties. Et cette dernière hypothèse a été confirmée par des études empiriques attestant l'existence d'une relation positive entre la rigueur de la législation protectrice de l'emploi et le niveau d'innovation au sein des entreprises, même en Californie. Ces études ont montré ça. L'augmentation de protection du travailleur est liée à un niveau plus haut d'innovation. Oui. L'explication pour ces résultats est que les travailleurs sont davantage disposés à partager leurs connaissances avec la gestion de l'entreprise si les promesses de sécurité par l'employeur sont crédibles. Et de façon analogue, d'autres études empiriques qui existent déjà tendent à montrer que la législation protectrice pourrait être associée à une amélioration de la coopération entre travailleurs et employeurs et à des gains de productivité. Au fur et à mesure de l'évolution de la recherche, ces auteurs ont commencé à s'intéresser de plus en plus, de plus près au contenu des lois protectrices de l'emploi. Des années 1990, c'était une modalité d'emploi, le travail à temps partiel, le travail de durée déterminée et le travail intérimaire étaient jugés par le CDE plus flexibles par nature que la modalité d'emploi classique, à savoir un contrat de travail à plein temps et de durée indéterminée. C'était les modalités flexibles dans cette époque-là qu'il fallait développer grâce à des réformes allant dans le sens d'une déréglementation ciblée dans le droit du travail. Mais un autre éclairage semble se généraliser depuis, en subordonnant les différentes formes d'emploi à des régimes juridiques spécifiques tout à fait différents. On risque de créer des distorsions qui peuvent conduire à une segmentation, à une nouvelle rigidité dans le marché du travail. Et des autres chercheurs qui s'intéressent aussi aux détails des institutions montrent que les faits de loi pour la protection de l'emploi varient selon le pays et la présence ou l'absence des autres mécanismes de gouvernance économique complémentaires dans les domaines tels que la gouvernance des entreprises et la formation professionnelle. Et dans le même ordre d'idées, certains auteurs montrent que le même type de réforme des lois protégeant l'emploi aura des effets économiques différents selon le niveau de protection générale préexistante dans le pays. Cette thèse a été confirmée par certaines études qui associent le renforcement de les lois protectrices avec une hausse de l'emploi lorsque l'environnement a été peu réglementé à l'origine, et puis à un plateau lorsque le niveau de réglementation devient intermédiaire. La hausse de la protection a alors un effet négatif très limité, voire nul, sur la productivité, etc. Et soit à un recul de l'emploi si la législation était trop bien développée initialement. Il faut prendre compte aussi, et finalement, sur de la nature spécifique de la réglementation juridique du marché du travail. Cela nous permettrait de faire la distinction entre les effets statiques et les effets dynamiques des lois. C'est-à-dire que les lois protectrices peuvent avoir un choc négatif dans le court terme. La réglementation augmente les coûts des entreprises, oui. Mais les entreprises ajustent à ce choc par diminuant le niveau des embauches dans le court terme. C'est réfléchi dans une perte d'emploi dans l'économie. Mais dans la longue terme, les entreprises peuvent absorber les coûts par une stratégie d'investissement dans les machines, dans les techniques d'organisation et dans la formation des salariés. Et par ces moyens, les lois protectrices stimulent les gains dans la productivité du capital et du travail, et aussi dans la compétitivité dans les entreprises. Et cette tendance est réfléchie dans une augmentation du niveau de l'emploi, parce que ces entreprises peuvent créer plus d'emplois, et une diminution du taux de chômage. Et aussi, il serait possible de vérifier une autre hypothèse. La législation du travail permet de trouver et de généraliser des solutions aux problèmes de coordination dans le marché. Solutions qui créent assez spontanément dans un sens du fait des interactions sociales et qui sont donc endogènes au marché. Le droit du travail n'est pas une interférence dans le marché. Le droit du travail est dans un sens endogène au problème de coordination créé par le marché. Le droit du travail, dans ce sens, est une partie de l'économie. Mais ça implique que nous avons besoin des sources de données qui peuvent exprimer les effets dynamiques et intertemporels dans la relation entre le droit et l'économie. Et ce qui est important dans ce contexte, je pense, est que la plupart des données utilisées par la Banque mondiale et le CDE manquent les caractéristiques nécessaires pour faire ça, grâce à l'absence des séries de temps assez étendues et aussi grâce à la transparence limitée des sources des données. Ceci crée un problème de la crédibilité des grandes déclarations de la Banque mondiale dans ses rapports Doing Business, comme la revendication que les lois des pays contraignent les entreprises et les forcent à adapter aux conditions nationales réglementaires. Et il pose, je pense, des questions fondamentales pour les classements des pays, comme a fait la Banque mondiale, par référence à la dite facilité de faire les affaires dans le territoire de notre pays, comme ceci démontre. Maintenant, c'est les études qui ont beaucoup influencé la Banque mondiale, ce sont des études de André Schleifer et ses collègues de Harvard dans les années 90 et les années 2000. Et Schleifer et ses collègues ont préparé un indice sur la réglementation du droit du travail, financé par la Banque mondiale, qui prétend à mesurer le droit du travail. Et ces chercheurs ont codé plus de 60 variables couvrant la protection de l'emploi, les relations collectives du travail et le droit de la sécurité sociale pour 85 pays à la fin des années 90. Ils ont trouvé que les systèmes de la common law ont des scores inférieurs à ceux du droit civil, notamment en matière de protection de l'emploi. Et ils ont conclu, après une analyse économétrique, que des scores plus élevés sur l'indice de la réglementation du travail sont corrélés avec des taux d'emploi pour les hommes, taux d'emploi masculin inférieur, le chômage des jeunes plus élevé et une économie informelle plus importante. Et ces études, bien sûr, ont beaucoup influencé et la Banque mondiale et les gouvernements. C'est apparemment très mal pour le droit du travail. Mais la question, dans ce sens, c'est une question de méthode, de la méthodologie. Il y a beaucoup de problèmes avec les indices de Schleifer et ses collègues. Il y avait beaucoup de discussions. Les indices ont été beaucoup critiqués pour le biais dans le choix des indicateurs, pour l'absence d'aucune série de temps. Ils ont eu des observations pour une année seulement, pour un an. Et bien pour des erreurs de codage. Beaucoup de juristes ont dit qu'il y a des erreurs de codage dans l'indice de Schleifer. Alors, c'est bien évident qu'il y a un problème ici de transposer une réalité assez complexe dans un nombre. Et j'accepte que l'irréalité des modèles économiques et des indices dans ce sens est inévitable. Ces modèles réduisent une réalité nécessairement complexe. Et c'est la même chose avec le droit. Les modèles juridiques que nous appelons les concepts, les économistes les trouvent étranges. Bien. Tous les modèles sont comme Descartes, dans ce sens, irréels, mais potentiellement utiles. Ce sont Descartes de Londres et de Paris. La carte du métro, de l'underground de Londres, ce n'est pas absolument réel, bien sûr, mais c'est assez utile pour les passagers, mais pas pour les piétons, bien sûr. La carte de Paris, dans ce sens, c'est plus réel. C'est un exemple que, de temps en temps, en Grande-Bretagne, nous pourrions être plus cartésiennes. Oui, c'est un seul exemple. Alors, tous les indicateurs sont dans ce sens irréel, mais je pense qu'il est possible de construire des modèles qui sont plus ou moins réalistes. Peut-être moins réalistes, mais qui restent utiles. Et donc, il y a un échange inévitable entre le réalisme et l'utilité. Mais je pense que c'est possible de trouver des indicateurs plus réalistes qui restent utiles. Donc, Il y avait un grand débat sur toutes ces questions. Et à Cambridge, nous avons décidé qu'il serait important de répondre aux études de Schleifer. Une réponse est que l'indice de Schleifer est terrible et il faut l'ignorer. Ce n'était pas notre réponse. Nous avons pensé que peut-être c'est plus important de créer des indices dans un sens supérieur. Et c'est notre projet leximétrique. Nous avons essayé de créer des indices qui sont assez réels et particulièrement plus transparents. Bon. Et c'est très intéressant, la méthodologie qui a été établie par les chercheurs. En 2008, le CDE même et la Commission européenne ont élaboré conjointement un manuel sur la construction d'indicateurs composites qui est la plus complète et la plus exhaustive de ces comptes. Et à un stade de l'analyse qu'ils présentent, le manuel énonce les indicateurs composites ressemblent beaucoup à des modèles mathématiques ou computationnels et en tant que tels, leur construction doit plus à l'artisanat que aux règles scientifiques universellement acceptées pour l'encodage. Et en ce qui concerne les modèles, la justification d'un indicateur composite réside dans son aptitude à l'usage prévu et dans l'acceptation par la communauté scientifique. Le manuel défend la production des données de ce type au motif que les indicateurs composites qui comparent la performance des pays sont de plus en plus reconnus comme un outil dans l'analyse des politiques et de la communication publique. Mais il reconnaît également qu'ils peuvent envoyer des messages de politique trompeuses s'ils sont mal construits ou mal interprétés. Si les questions méthodologiques ne sont pas abordées de manière transparente, dit le CDE, avant le processus de construction, il sera difficile d'éviter la manipulation des données et des fausses déclarations. Et dans le cas de codage des données juridiques, la première et la plus fondamentale question de clarification est la question de ce qui est exactement codé. La prémisse de la construction d'indices est qu'une statistique sommaire peut, dans un certain sens, capturer la réalité, dit le CDE. Et pour utiliser les termes les plus souvent employés par les statisticiens, les données codées constituent une construction qui se rapporte à un concept. C'est les statisticiens qui utilisent ces mots un peu postmodernes, construction et concept. Le concept saisit une caractéristique de la réalité sociale, un référent social que la construction représente sous forme numérique ou statistique. Bien, quelle est donc la réalité qui est représentée dans les indices juridiques dits leximétriques? Pour l'OCDE et la Banque mondiale, le règlement est défini comme une contrainte sur le comportement de l'employeur dérivée d'une source légale. L'OCDE a dit « Il existe un règlement lorsque un employeur individuel ne peut, même en accord avec ses propres employés, recourir à des arrangements de travail ou à des formes de contrats d'emploi particuliers sans risquer des sanctions légales ou l'invalidité des dispositions pertinentes du contrat. C'est donc un coût, une contrainte pour l'employeur. Il y a plusieurs problèmes avec cette approche. Et la plus importante est qu'il est bien possible qu'une règle de droit peut accorder des pouvoirs aux entreprises, pas seulement des rigidités. Les effets de ces règles ne sont pas simplement contraignants. Et cette observation, qui semble limitée peut-être aux règles dites facilitateurs du droit commercial, est, dans mon avis, tout à fait valide aussi pour les lois dites protectrices du droit du travail, qui, d'après les théories institutionnelles, permettent aux entreprises d'éviter les problèmes de risque moral et de sélection défavorable. Le problème est qu'inscrit dans l'approche au codage de l'OCDE et de la Banque mondiale est une présupposition qui anticipe leur conclusion, qui est que le droit du travail déforme l'opération du marché du travail. Et pour éviter cette circularité, il y a une seule alternative, nous avons pensé, recommencer à zéro avec une nouvelle approche au codage que nous avons essayé de faire à Cambridge depuis une décennie maintenant. Le choix des indicateurs reflétait l'objectif de l'élaboration d'un indice du droit du travail qui était exhaustif dans sa couverture, dans le sens d'inclure à la fois les aspects individuels et collectifs des règles du droit du travail et le regroupement en sous-indices qui visait à capturer la nature de l'imbrication des règles régissant une question particulière. Et une prémisse de notre indice est que le codage des textes juridiques n'est pas capable en soi d'indiquer si une règle particulière implique des coûts ou des avantages pour les employeurs ou pour un employeur ou pour les employeurs en général. Donc, nos indicateurs sont formellement neutres sur la question de savoir si les effets de la législation du travail sont bons ou mauvais, ce qui permet de résoudre ce problème au moyen d'une analyse économétrique sur le point de savoir si les lois, telles que quantifiées dans l'indice pertinent, ont cet effet. Donc, pour nous, le processus de codage essaie de capturer la substance juridique du droit et de traduire cette substance du juridique à la métrique, utilisant des échelles de codage pour ce but. Et bien sûr aussi, dans la construction de l'indice, nous avons dû considérer des questions assez techniques de la normalisation et de la pondération ou weighting et de l'agrégation des indicateurs. La normalisation est le processus de rendu des variables sous une forme numérique qui les rendent mutuellement comparables, tandis que la pondération et l'agrégation sont concernées par la façon dont les variables sont combinées pour produire un indicateur global de la force ou de la faiblesse de la loi dans un cas donné. Et dans la pratique, ils sont interdépendants en ce sens que l'approche adoptée pour l'identification des variables et leur normalisation à l'aide d'une échelle standard aura un impact sur la façon dont elles sont ensuite pondérées et agrégées et inversement. Et inévitablement, il y a des choix assez subjectifs ou contestables dans ce processus. Mais s'il est impossible d'éviter toute subjectivité, on peut néanmoins clarifier et justifier les choix. Je pense qu'il est possible aussi standardiser l'attribution des valeurs aux indicateurs par l'utilisation et la méthode que nous avons utilisée est celle de développer des protocoles ou algorithmes de codage. L'indice est publié, vous pouvez le voir sur l'Internet. Les protocoles et les indicateurs que nous avons utilisés sont publiés et on peut voir exactement comment nous avons dérivé des nombres des textes dans les documents que nous avons publiés. On peut voir ici comment on commence avec une loi, ou plusieurs lois françaises, par exemple, mais il y a plus de 100 pays dans la base de données, mais dans la France, il y a des lois spécifiques dans certaines périodes historiques. On a la loi, on lit le texte de la loi, on a un protocole avec des échelles pour donner un nombre, au texte. Et après ça, Nous avons des données dans une forme où l'on peut identifier pour chaque an et pour chaque indicateur, il y a 40 indicateurs, le niveau de protection dans ce sens présumé, dans un sens par le droit, c'est la substance juridique de cette loi. Plus précisément, dans les protocoles, nous avons eu des choix. Peut-être on pourrait utiliser un codage binaire, c'est-à-dire un codage, un protocole qui identifie la présence ou non d'une loi sur un sujet donné. Nous avons décidé que ce codage binaire est trop simple pour notre projet parce que la plupart des règles du droit du travail expriment la protection du travailleur en utilisant une échelle graduée. Et dans ce contexte, la normalisation impliquera la construction d'une échelle arithmétique qui exprime le degré de protection du travail entraîné par une règle donnée. Et c'est pourquoi nous avons utilisé les protocoles et les algorithmes de codage qui définissent la base sur laquelle les valeurs doivent être affectées à des règles de différents types. Bien sûr, nous avons lu dans une équipe assez petite les lois de tous ces pays. Bien, nous avons essayé de trouver un consensus chez nous sur les scores. Nous avons commencé avec 5 ou 7 pays en 2007 et nous avons fini ce travail assez grand en 2013 avec 117 pays. Et après ça, nous avons commencé à examiner la base de données et à utiliser des méthodes économétriques pour examiner les questions que j'ai déjà mentionnées. Une nouvelle possibilité, un avantage des bases de données est peut-être la clarté, la transparence et la visibilité des effets de l'adoption des lois protectrices. Et on peut observer, par exemple, dans certains pays, des tendances. Et on voit aussi qu'il y a, il y avait une grande divergence entre, par exemple, la France et la Grande-Bretagne. Oui, au commencement des années 80, avec le gouvernement de M. Mitterrand, on observe dans la France une augmentation très significative dans le niveau de protection par les lois, dans le droit du travail, mais dans la Grande-Bretagne, avec Madame Thatcher, il y a cette grande chute de protection dans la même époque. Et après ça, la Grande-Bretagne est assez proche aux États-Unis. Mais après le gouvernement de M. Blair, il y a une augmentation, encore une fois, dans la protection, mais pas au niveau des années 70. Et même en France, il y a bien sûr des changements, mais nous avons considéré que ces changements, dans une perspective historique, sont assez petits hein, dans la France. L'Allemagne, la Suède et même l'Inde, le Japon ici, sont bien sûr moins protectives que la France. La France a une bonne réputation pour le droit du travail. C'est bien mérité. Oui, c'est ça. Mais dans les autres pays, on peut observer, c'est très intéressant, je pense, cette augmentation, c'est la Chine. La Chine. La Chine a adopté une nouvelle loi sur les contrats du travail en 2007, qui a été très controversée en Chine. La nouvelle loi a été opposée par la Chambre de commerce américaine et même dans certains groupes dans le Parti communiste en Chine. Mais enfin, le gouvernement a adopté cette loi. Ils ont considéré changer la loi, mais la loi, maintenant, reste. Les gens disent, alors, c'est bien possible qu'en pratique, ces lois chinoises ne sont pas observées très bien. Mais c'est une question difficile. Il y a l'évidence. J'ai fait des interviews en Chine avec des entreprises dans les grandes cités, dans le sud, et à Shanghai, en Guangzhou. Les employeurs ne sont pas très heureux. Et peut-être c'est évident que pour eux, pour les employeurs, les lois sont un problème. Oui, une rigidité, les employeurs disent. Peut-être c'est possible que les règles sont enforcées assez strictement dans certaines régions de la Chine. C'est bien possible. On ne peut pas assumer que l'enforcement des lois n'existe pas dans les pays dits sous-développés ou à un certain niveau de l'industrialisation. Et j'ai l'impression que les réformes du droit du travail dans la Chine ont été assez importantes. Et on peut observer aussi au niveau global des tendances dans tous les pays. Dans tous les pays. Et on observe pour les lois sur la protection des travailleurs qui travaillent à temps partiel ou dans le travail intérimaire ou travail à durée déterminée, il y a une assez forte augmentation, oui, de la protection après 2000 ou après 1995 ou quelque chose comme ça. C'est l'influence de l'Union européenne et les directives concernant l'égalité entre ces formes d'emploi et le modèle standard d'emploi. L'Union européenne est responsable pour la diffusion d'un modèle d'égalité entre ces formes qui a commencé dans la France, en France, dans les années 80, avec les lois au roux, les réformes et les autres réformes du gouvernement de Mitterrand. Même dans les autres lois, les lois sur le licenciement, si on considère le monde entier, on ne voit pas une baisse de protection. C'est possible en Europe. Après la crise financière de 2008, il y a une diminution de protection dans les lois contre le licenciement. C'est la conséquence de la crise. Mais dans une perspective assez longue, historique, 1970, cette diminution est assez petite par comparaison avec l'augmentation de protection dans les autres décennies. Et dans le monde entier, même dans les pays dits moins développés, on observe une augmentation assez claire, mais incrémentale, dans la substance de la protection juridique. Et ça, je pense, est intéressant. Peut-être c'est surprenant dans l'âge de la flexibilité, mais je pense qu'ici, on observe une certaine augmentation des protections pour l'individuel, pour le travailleur individuel. Peut-être c'est une compensation pour la perte de pouvoir des syndicats, pour l'individualisation des droits. Il faut avoir ces lois protectrices qui se focalise sur l'individu, pas sur les forces collectives du travail. C'est donc une compensation. Oui, les taux de syndicalisation dans le monde et dans l'Europe sont tombés, mais par une compensation, dans un sens, les lois pour la protection de l'individu ont augmenté. Et maintenant, et pour conclure, je vais décrire l'étude économétrique que nous avons faite. Et cette étude... Oui, il y a un modèle de régression qui semble assez complexe, mais dans un sens, c'est pas si mal, même pour les juristes. Parce que ce modèle de régression essaie d'examiner les effets des délais dans les effets comment dire en anglais, les lags, les délais dans l'enforcement ou l'application du droit. On a conçu ici qu'il est possible que, comme j'ai décrit, il y a un effet de court terme et un autre effet de long terme. C'est l'hypothèse que nous avons essayé d'examiner dans cette régression. Et ce sont les résultats, un petit peu plus petits, je suis très désolé, mais ici, nous examinons la relation entre le droit, les lois qui protègent les travailleurs dans les formes atypiques, dites atypiques de l'emploi, temps partiel, travail intérimaire, travail temporaire, durée déterminée, les effets sur les variables économiques, taux d'emploi, auto-emploi, productivité, part du travail, c'est une mesure de l'égalité entre le capital et le travail, et le chômage. Donc, la corrélation pour le court terme est négative dans certains cas. Il y a une perte d'emploi dans le court terme. C'est le choc que nous avons imaginé, l'effet des lois. Mais dans le long terme, les effets sont positifs sur la participation dans le marché du travail, sur l'emploi, pas sur l'auto-emploi. Mais je pense que si le droit protège les formes dites atypiques du travail, l'offre pour l'auto-emploi diminue, parce que peut-être les gens préfèrent être employés dans les autres termes qui se substituent pour l'auto-emploi. Le chômage est tombé. Donc, augmenter la protection, il y a une diminution du taux de chômage. Et l'autre, nous examinons ici essentiellement les effets des lois sur le licenciement, les effets économiques dans la régression. La même chose dans un sens, les effets de court terme sont rien pratiquement ici. Ces résultats ne sont pas significatifs dans un sens statistique. Dans le long terme, les effets positifs, on les trouve encore une fois sur la participation dans le marché du travail, l'emploi, même l'auto-emploi maintenant, la part du travail. Alors, les salaires augmentent par comparaison avec les rentes, les dividendes, des choses comme ça. Et aussi, le chômage tombe. Now, même dans cette période, si globalement, le taux de chômage peut être est élevé, ou peut-être dans ces pays, la part du travail est tombée, oui, c'est ça. Mais la conclusion est que le droit du travail a empêché une perte du part du travail plus extrême. C'est l'effet qui nous pourrions identifier après contrôler pour toutes les autres influences sur ces variables. Et nous avons divers contrôles dans la régression que je pourrais expliquer s'il y a des questions. Après avoir contrôlé pour tous ces effets, les effets du droit spécifique, les effets du droit du travail dans le long terme sont positifs pour la productivité, pour les salaires, pour la part du travail et donc pour l'égalité. Alors, l'interprétation de ces règles, bien sûr, c'est assez difficile parce que nous devrions prendre soin avec cette analyse. C'est bien évident. Mais je pense qu'il y a une certaine évidence empirique pour notre hypothèse, oui. Qui sait, il y a un choc à court terme, mais dans le long terme, des impacts plus positifs dans les entreprises sur la productivité et la part du travail du revenu national. Le résultat est cohérent avec la théorie institutionnaliste. Les lois sur la protection de l'emploi disciplinent les entreprises. C'est une contrainte bénéfique, quand Wolfgang Streeck, le sociologue allemand, a suggéré, discipline les entreprises à utiliser les entrants de main-d'œuvre et de capital de manière plus productive. Le capitalisme marche si le droit discipline les entreprises. Oui. Bien sûr, les limitations de notre étude sont vastes. Difficile de déduire la causalité de la corrélation, bien sûr, comme toutes les sciences sociales. Oui. Le contexte national, dans un sens, est invisible dans un grand panel de 117 pays. C'est un problème. Les effets intertemporels, c'est très difficile de les capturer. Alors, ce que Donald Rumsfeld, qui bien sûr n'est pas économiste, mais un autre homme de politique, il a nommé des choses dans les pays que l'on ne peut pas observer. Les inconnus. C'est le même problème avec l'économétrie, dans un sens. C'est difficile à savoir toutes les choses qui comptent, comme Einstein lui-même a dit. Maintenant, j'ai cité dans la même sentence Einstein et Donald Rumsfeld. Et donc, je pense que je m'arrête là. Merci.